Bonjour et bienvenue, c'est Loïc du blog Mon Potager en Carré. Le titre de ce podcast est « Comment économiser 130 euros dans l'analyse de votre sol ?» Comme je vous l'ai déjà raconté, quand j'ai commencé mon potager de ville, j'ai rapidement été déçu par mes résultats. Le facteur le plus limitant à cette époque était la médiocrité de ma terre. En bon jardinier, je voulais comprendre ce qu'il manquait à cette terre pour l'améliorer. Et j'ai commencé à chercher des laboratoires pour analyser celle-ci. J'ai trouvé près de chez moi une analyse pour 130 euros. Avec le temps, j'ai fini par oublier. Et je n'ai jamais franchi la porte du laboratoire avec mon sachet de terre. Or, depuis, je vois de plus en plus d'articles et de propositions pour analyser la terre de son jardin. Voilà qui relance ma curiosité. Que peut apporter l'analyse de sa terre? Les arguments avancés par ceux qui proposent l'analyse sont les suivants. Connaître son sol, prévenir les carences, éviter les excès, suivre l'évolution de la terre. Les laboratoires fournissent un document qui ressemble un peu à celui d'une analyse de sang. On peut y lire la teneur d'un élément en comparaison de la teneur souhaitable. Ainsi, vous pouvez savoir s'il y a assez de matière organique, par exemple. Vous allez tout savoir sur la nature de votre sol. Y a-t-il assez de fer, de cuivre, de zinc, de sodium, etc. À quoi bon? Oui, finalement. À quoi ça peut bien nous servir de savoir que notre terre est pauvre en aluminium? Allez vous commander un camion de poudre d'aluminium et le répandre dans votre jardin. Certainement que non. Changeons d'approche. Je crois que c'est une mauvaise approche que de vouloir disséquer la compréhension des phénomènes. Je m'explique. Dans le jardinage comme en médecine, on est tenté de soigner un phénomène indésirable en appliquant un remède qui va le stopper. Seulement, on ne cherche pas à comprendre ce qui est à l'origine de ce phénomène, et on ignore les conséquences collatérales des remèdes utilisés. Il faut admettre que l'on a seulement une compréhension partielle des mécanismes naturels. Une action a de multiples conséquences. Alors, faisons plutôt confiance à la nature, et ne nous prenons pas pour des jardiniers médecins. Cela ne veut pas dire pour autant que l'on n'a rien à faire. Il est possible d'orienter la mécanique naturelle dans le sens qui nous servira. Prenons un exemple. En forêt, tous les ans, les feuilles tombent. Alors, essayons de reproduire cela dans notre potager et ramassons les feuilles. Attention, je ne vous dis pas d'aller ramasser les feuilles en forêt. Pratiquez l'observation. Vous avez compris que les jolis tableaux des labos ne vous aideront pas à obtenir une terre plus fertile. D'ailleurs, comment ils faisaient nos aïeux? L'observation directe vous permet déjà de savoir si votre terre est plutôt argileuse ou sableuse. Le test est simple. Si vous parvenez à faire un boudin en malaxant la terre comme de la pâte à modeler, c'est qu'elle est argileuse. La couleur aussi peut vous aider et vous donner des indications sur la teneur en humus. Observez la terre en forêt. Touchez-la. C'est un peu une terre de référence pour moi. On peut aussi observer qu'il n'y a pas de charrue pour retourner la terre de la forêt, et que l'apport fertilisant se fait par le dessus. L'observation des plantes aussi nous renseigne sur l'état de notre sol. En été, au moment où les plantes sont en pleine activité, on peut relever leur présence spontanée. Quelques exemples. La prêle révèle un sol humide et mal drainé, le souci un sol calcaire, la carotte sauvage un sol calcaire et sec, le pourpier un sol sableux et compacté. Aujourd'hui, je dirais que mon défaut de dispersion m'a fait économiser le prix de cette analyse. Je n'ai aucune idée de la constitution de ma terre, mais je peux vous dire que l'application de méthodes simples, comme couverture permanente du sol, a considérablement amélioré sa qualité. Je vous dis à bientôt.